Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
L'Afrique subsaharienne évolue dans un paysage économique complexe marqué à la fois par des progrès et des vulnérabilités macroéconomiques persistantes. C'est ce qui ressort du rapport 2024 du Fonds monétaire international, le FMI, rapport qui porte sur l'Afrique subsaharienne, qui a été publié récemment en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues à Washington. Nous parlerons de ce rapport dans cette émission avec le chef de division adjoint du département Afrique du FMI, M. Antonio David, avec qui nous serons en ligne depuis les États-Unis. Ça sera dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Ensuite, vous aurez la rubrique Itinéraire où nous parlerons du parcours inspirant d'un jeune opérateur économique de Daloa, Touré Daouda, qui parlera de sa vie d'entrepreneur. Mais bien avant, suivons le lexique économique et c'est maintenant.
Le lexique économique.
Le FMI.
Le FMI, le Fonds monétaire international, a été créé en 1945 et a pour mission principale de veiller à la stabilité du système monétaire international. Dans les années 1970, une nouvelle organisation financière internationale a fait évoluer ses missions vers la surveillance macroéconomique des pays en développement. Le Fonds monétaire international, donc, est une institution financière qui aide ces pays membres à améliorer le fonctionnement de leur économie, notamment en encourageant la stabilisation des taux de change et en s'attaquant donc aux problèmes de balance de paiement.
Le groupe de la Banque mondiale.
Le groupe de la Banque mondiale est un regroupement de 5 organisations internationales réalisant des prêts à effet de levier, donc pour les pays en développement. Le groupe, fondé le 4 juillet 1944, est basé à Washington, aux États-Unis. Et les 5 organisations donc de ce groupe sont la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, l'Association internationale de développement IDEA, la Société financière internationale, la SFI, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, la MIGA, et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRD.
L'Afrique subsaharienne.
L'Afrique subsaharienne, c'est la partie de l'Afrique qui se situe au sud du Sahara. Et selon le FMI, c'est une région extrêmement diversifiée, composée de pays à revenus faibles, moyens inférieurs, moyens supérieurs et élevés, dont 22 sont fragiles ou touchés par des conflits, et de 13 petits États caractérisés par une faible population. Il faut le savoir, l'Afrique subsaharienne abrite une quarantaine de pays.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Antonio David, bonjour.
Bonjour.
Washington a accueilli du 21 au 25 les assemblées annuelles du FMI, du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Et à cette occasion, vous avez donc publié le rapport Afrique subsaharienne. Alors, que retenir justement de cet exercice?
Tout à fait, merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que les perspectives pour l'Afrique subsaharienne s'améliorent graduellement. Les ajustements qui sont en cours depuis l'année dernière, des ajustements difficiles de politique économique, commence à porter des fruits. L'inflation s'est réduite dans la plupart des pays de la région et près de la moitié des pays présentent déjà des taux conformes aux cibles. Il y a aussi eu un effort de consolidation budgétaire qui a contribué à stabiliser le niveau de dette qui se situe certes encore à un niveau élevé de 58% du PIB, mais au moins ce n'est plus une trajectoire ascendante.
Mmh. Alors, quelles ont été les recettes qui ont permis d'avoir ces résultats-là?
Comme je vous disais, c'est un effort d'ajustement des politiques macroéconomiques, donc un resserrement de la politique monétaire pour contenir l'inflation. Mmh. Et en même temps, des efforts de consolidation budgétaire. Typiquement, je dirais que 2/3 des pays de la région ont réalisé ces efforts l'année dernière en 2023, avec une réduction du déficit budgétaire d'environ 1,3% en moyenne. Et il y a des pays qui ont fait des efforts beaucoup plus importants que ça. Donc c'est vraiment cette volonté de poursuivre des politiques macroéconomiques prudentes.
Néanmoins, le rapport note une inflation qui reste à 2 chiffres dans près d'un tiers des pays. Comment ça s'explique?
Donc, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que ces efforts ont été réalisés, mais les vulnérabilités persistent dans la région, bien qu'à des degrés divers entre les différents pays. Hein. Vous avez parlé déjà de l'inflation et même plusieurs pays dans la région ont encore une faible capacité à assurer le service de la dette. Mmh. Donc, il y a près d'un quart des pays de la région qui présentent un ratio des charges d'intérêt par rapport aux recettes qui est au-dessus de 20%, au niveau qu'on considère un peu préoccupant. Mmh. Des réserves d'échange sont aussi insuffisantes dans un tiers des pays de la zone. Donc, les efforts ont été réalisés, mais il faut encore travailler dessus. Et il y a des ajustements, des réformes à faire en 2024 et 2025 pour qu'on puisse vraiment assurer la stabilité macroéconomique.
Mais on note quand même que vous êtes heureux que certains pays commencent à aller sur des marchés extérieurs pour donc lever des fonds. Ce n'était pas le cas il y a quelques années.
Tout à fait. C'est une excellente nouvelle qui plusieurs pays on peut avoir accès au marché international. Mais il faut avouer quand même que les taux d'intérêt auxquels ces pays font face sont à des niveaux historiquement assez élevés. Mmh. Donc ça, c'est un des obstacles que les dirigeants de la région auxquels ils font face en essayant de poursuivre leur politique macroéconomique prudente. L'autre obstacle important est un taux de croissance qui reste quand même un peu timide. Mmh. Au niveau régional, le taux se situe autour de 3,6% pour l'année 2024.
Et la question de l'insécurité aussi dans beaucoup de pays qui menace cette croissance-là.
Tout à fait, certainement, en particulier dans la région du Sahel, par exemple, mais aussi ailleurs dans les continents. Toute cette question d'instabilité politique, mais également des tensions sociales, des agitations sociales qui ont eu lieu dans des pays tels que le Kenya, Nigeria, entre autres, elles ajoutent un peu de complexité en ce qui concerne la poursuite des politiques macroéconomiques.
Alors, mais comment concilier, M. Antonio, comment concilier donc la santé économique des pays par ces réformes que vous souhaitez au FMI? Parce que des fois, ça passe par l'accroissement aussi donc des ressources fiscales et tout cela. Des fois, ça fait grincer les dents.
Certainement, c'est ça le challenge. Les décideurs dans la région de l'Afrique subsaharienne doivent faire des arbitrages extrêmement difficiles. Mmh. Il faut qu'ils essayent de poursuivre leur politique pour réduire les vulnérabilités macroéconomiques et en même temps s'attaquer aux besoins de développement tout en assurant que les réformes et les ajustements nécessaires pour arriver à ces objectifs soient acceptables du point de vue économique et social.
Alors, quels seront les piliers sur lesquels ils peuvent s'appuyer, ces dirigeants des pays, pour essayer de consolider donc cette croissance notée, même si elle est fragile?
Tout à fait. Dans le rapport, on se penche en détail sur cette question. Mmh. Et je voudrais souligner peut-être 4 aspects.
Oui.
Qui sont importants pour rendre les réformes socialement plus acceptables et pour garantir l'adhésion de la population aux réformes. La question de bien concevoir des stratégies de consultation, de communication, pour que la population puisse bien comprendre la nécessité des réformes, les bénéfices associés à ces réformes, ainsi que le coût de ne pas agir. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect est le besoin d'échelonner les réformes de manière appropriée et prendre des mesures d'accompagnement, des mesures compensatoires, pour qu'on puisse atténuer les coûts sentis par la population. Parfois, les réformes imposent des difficultés à court terme, bien qu'elles apportent des bénéfices à long terme. Non, c'est tout ce qui concerne la gestion transparente des ressources publiques, pour inspirer la confiance des populations au pouvoir public, pour que les populations soient bien assurées que la capacité de l'État à utiliser les ressources publiques pour promouvoir le bien-être de la population. Plusieurs sondages, quand on regarde les sondages d'opinion en Afrique, qui montrent que parfois cette confiance n'est pas encore là.
Il n'est pas encore là.
Il faut prendre des mesures pour améliorer ça.
C'est cela. Alors pour terminer, justement, chaque année, vous vous rendez donc dans ces pays concernés pour conseiller, pour améliorer donc ces stratégies donc économiques des pays. Quel message vous lancez justement à ces dirigeants et aux populations pour qu'on comprenne le rôle du Fonds monétaire international dans cette volonté de faire en sorte que les économies des pays du monde s'améliorent?
Certainement. Donc le FMI agit sur 3 volets essentiels. Le premier, évidemment, c'est le mieux connu, la question du financement, non, voir qui comment lisser un peu l'ajustement nécessaire, fournir du financement pour qu'on puisse ajuster les politiques de manière graduelle. Ça, c'est bien connu. L'autre aspect important est la question des conseils en termes de politique macroéconomique qu'on porte aux différents dirigeants d'Afrique. Et finalement, nous sommes beaucoup actifs également au niveau du renforcement des capacités. Les pays de la région reçoivent près de 40% des ressources du FMI qui sont dévouées au renforcement des capacités sont dédiées aux pays africains. Mmh. En termes de financement, cette année-ci, en 2024, nous avons déjà décaissé 5 milliards de dollars pour les pays de la région.
C'est cela.
Il y en a 25 pays qui sont sous programme.
Être sous programme, qu'est-ce que ça veut dire, hein, pour expliquer simplement?
Ça veut dire qu'il y a des programmes qui ont bien sûr été élaborés par les autorités eux-mêmes, par les autorités des pays africains eux-mêmes, qui sont appuyés en termes financiers par le FMI.
Monsieur Antonio David, merci à vous.
Merci.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Merci de suivre cet espace réservé donc aux entrepreneurs. Dans ce cadre-là, nous sommes avec M. Touré Daouda, qui est dans un secteur d'activité, le secteur de l'électronique. Nous sommes à Daloa encore une fois, oui, vous l'avez remarqué. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, Touré Daouda, si on vous demandait de vous présenter à nos auditeurs, vous êtes qui? Vous faites quoi?
Moi, à l'état civil, c'est monsieur Touré Daouda. Je suis un peu dans la communication, l'informatique et la restauration.
Restauration, communication, informatique. Si ce n'est pas indiscret, votre tranche d'âge, c'est ici?
J'ai 31 ans.
Est-ce que ça a été toujours comme ça? 10 ans en arrière, vous étiez un peu plus jeune. Qu'est-ce que vous faisiez?
Bon, 10 ans en arrière, je faisais les transferts de sons dans les téléphones.
Alors, vous êtes allé à l'école, hein, c'est cela?
Non.
Vous avez décidé de ne pas aller à l'école?
Bon, j'ai pas fait d'école en tout cas.
Vous êtes dans un secteur aussi exigeant, communication informatique et puis bon, restauration. L'idée de vous lancer est venue comment?
Bon, ce domaine-là, je pense que bon, c'est venu par une inspiration. Hein. Sinon, je peux dire que j'ai commencé d'abord par faire les chaussures en cuir, communément appelées chaussures de Daloa. J'étais déjà formé, j'étais prêt à faire mon atelier même, que j'ai eu canal par un grand frère qui m'a envoyé au commerce pour vendre les disquettes. On prenait les disquettes avec des gens qui sont à Abidjan. Bon, quand moi, je suis rentré dedans, j'ai jugé bon, essayé d'être indépendant moi-même. Ouais, l'activité, on avait bien d'un ordinateur pour faire l'activité. Donc, que j'ai serré sur moi-même pour avoir des fonds et puis avoir un ordinateur. Et c'est ça qui m'a mis en contact avec l'informatique.
Alors, revenons au moment où vous appreniez à fabriquer les sandales. Très célèbre, hein, sandales de Daloa, on connaît. Et qui vous a poussé dans ce domaine-là d'abord, l'apprentissage de la fabrication de ces chaussures-là?
On peut dire que c'est un domaine que moi-même j'ai aimé. Depuis tout petit, j'aimais fabriquer ce genre de trucs. Et moi-même, j'ai demandé à apprendre.
De là, vous vous intéressez au secteur de l'informatique. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, vous étiez un peu un touche-à-tout? Vous ne saviez pas la voie qui vous intéressait. Vous vouliez quand même découvrir tout, c'est ça?
Bon, je suis quelqu'un, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses. J'aime les expériences que je ne maîtrise pas. J'aime avoir toujours de nouvelles expériences.
Vous trouvez votre créneau, comment vous commencez?
Bon, je veux dire, bon, après la vente des disquettes, arrivé un moment, bon, avec l'évolution de l'informatique, les clés USB, les trucs, bon, les disquettes ne marchaient plus. Donc on s'est converti, on envoyait des sons maintenant par les clés USB et les téléphones directement. Donc c'est ça, c'est dans ce secteur que je suis resté. Et après, bon, j'ai jugé, bon, ce secteur-là, ça commençait à s'affaiblir. J'ai jugé, bon, comme je suis déjà en contact avec les vendeurs de téléphones, et puis bon, je maîtrise déjà le marché, je me suis lancé dans le domaine des téléphones.
Alors, le début, ça commence comment? Vous lancez, ça semble facile, hein? Un seul téléphone coûte. Alors, comment vous commencez concrètement?
Non, effectivement, tout le monde connaît comment ça se passe au Black. Tu n'as pas besoin d'avoir un magasin pour faire la commercialisation des téléphones. Quand on vient, on s'arrête devant les magasins. On aborde les clients veulent le téléphone, on discute avec lui, on prend avec le magasinier et on vend et puis on gagne pour nous dessus.
Comme un commercial quoi, vous aidez à vendre.
Voilà. Et puis on a nos contacts aussi, on a des contacts peut-être qui sont dans des bureaux qui ne se déplacent pas, ils ont besoin d'un téléphone, bon, quel que soit Alpha, tout ce qu'ils ont besoin, nous on est entre eux et puis les magasinés au fait.
Vous dites vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez commencé par les chaussures, ensuite vous vous intéressez à tout ce qui est informatique. Mais comment vous réussissez à vous adapter à ça? Parce que l'informatique quand même c'est un secteur qui nécessite une certaine dose de connaissances.
Bon, je peux dire ce côté, j'ai été vraiment doué dedans. Parce que lorsque j'ai acheté un ordinateur même, on peut dire même allumer l'ordinateur, mais je connaissais pas. Mais comme on le dit, quand quelque chose t'appartient, tu vas gâter, mais jusqu'à la fin, tu vas trouver la solution dedans.
Vous êtes un passionné de la chose, hein. On peut dire que vous avez appris sur le tas.
Voilà, j'ai appris sur le tas, effectivement.
Mais à quel moment vous décidez de centraliser tout ce que vous faites en créant ce magasin qui nous reçoit aujourd'hui?
Bon, comme je l'ai dit, on a commencé bon, en tant que des coursiers, bon, arrivé à un certain niveau, bon, j'ai vu que si je me cherchais un magasin, là, j'ai commencé par vendre des accessoires, puisque les téléphones, les prix étaient élevés, pas commencé par téléphone. Donc, j'ai eu un magasin, j'ai commencé par les accessoires. Quand j'ai eu le magasin, même pas 6 mois, ils ont cassé le marché. Le marché là où je travaillais, ils ont cassé le marché. Bon, je me suis retourné en tant que vendeur ambulant encore. Bon, juste après ça encore, Dieu a fait grâce encore, j'ai eu un autre magasin. Communément, les téléphones iPhone, c'était à l'époque, c'était pas permis à tout le monde pour manipuler, les gens ne maîtrisaient pas. Donc c'est sur ce côté même que j'ai eu beaucoup de contacts. Dieu a fait que j'ai eu un autre magasin. Je me suis lancé dans ce secteur aussi.
Alors, vous avez souligné quelque chose, le secteur des téléphones nécessite beaucoup d'argent. La question que je vous pose, comment vous obtenez les fonds pour ouvrir un magasin avec tous ces appareils qu'on a aujourd'hui sous nos yeux?
Bon, je peux dire que le fond même pour commencer le magasin, c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est quand je vendais les trucs ambulants. Ça veut dire qu'un client a besoin d'un téléphone, je viens chez le magasinier prend un exemple banal, le panacier, il me dit que le téléphone fait 10 000 francs. Si moi je prends, je discute avec mon client, si je paye à 15 000, ça veut dire que j'ai déjà 5 000 francs dessus.
Je suis d'accord, mais vous gagnez 5 000 d'une personne, 5 000 d'autre. Comment vous réussissez à centraliser tout ça? Parce que vous êtes jeune, hein? Les besoins de la jeunesse, on le sait. Comment vous réussissez à gérer tous ces fonds-là?
Bon, je pense que dans la vie, tout ce que tu fais, il faut avoir un objectif. Si tu vois, je me suis fixé un objectif pendant un certain moment. Je dois avoir ça jusqu'à cette époque. Et c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis privé de plusieurs choses. Essayer d'économiser ce que je gagne et commencer par les accessoires. Et ensuite, les accessoires, un peu, je prends un téléphone, deux téléphones ajoutés jusqu'à aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, votre présence, c'est ce magasin, c'est le seul que vous avez ou bien vous avez d'autres activités? Vous avez dit, vous êtes dans la communication, l'informatique, la restauration.
Bon, pour le magasin comme ça, j'ai 3 magasins. Plus le restaurant.
Vous, jeune, une trentaine, vous avez au fur et à mesure de vos activités, vous les démultipliez. C'est quoi votre vision? Où vous voulez aller en fait?
Bon, là où je veux aller, bon, si on comprend bien, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup passionné et j'aime toujours les nouveaux défis. J'aime toujours les nouveaux défis et je veux, exemple, pouvoir aussi créer des emplois pour que d'autres personnes aussi puissent se retrouver dedans. Voilà, c'est un peu ça.
L'idée de la restauration, par exemple, est venue de quand?
Effectivement, l'idée du restaurant est venue. Je cherche, quand je vois des bons espaces, je cherche toujours à louer. Donc, j'étais de passage un jour. J'ai vu un magasin où j'ai mis sur le magasin à céder. Bon, j'ai pris le contact du propriétaire du magasin. Comme j'ai vu que j'ai jugé que l'emplacement était bon, je l'ai appelé, je veux le magasin. J'ai discuté avec lui, on était mis d'accord sur le magasin. Je voulais faire mon secteur d'activité là-bas. Bon, et puis faire un kiosque à café à côté. C'est par là l'idée est venue. Bon, quand j'ai commencé les travaux, vu l'emplacement du coin, et puis bon, avec plusieurs études de terrain, j'ai jugé que bon, si j'essaie de faire, pourquoi pas, au lieu de faire café, si j'essaie de faire un restaurant ici, est-ce que ça ne va pas prendre? C'est comme ça que je me suis lancé dans le côté restauration.
Alors, mais aujourd'hui, comment vous gérez tout cela?
Bon, en tout cas, ça a besoin de beaucoup de sacrifices. Hein. Il faut consacrer beaucoup de temps. Tu ne peux pas être à la fois. En tout cas, c'est juste de gérer le timing et être disponible.
Est-ce que vous avez un mécanisme de suivi de tout ça?
Si. Tous les établissements que j'ai sont sur des vidéos surveillance.
Alors, pour terminer, si vous devez donner des conseils, quelles sont les clés de réussite pour une femme ou un homme d'affaires?
Bon, je pense que la base, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu gagnes, dans la vie, il faut avoir un objectif. Si tu as un objectif, parce que c'est de faire sacrifice. Comme on le dit, tout ce qui nous plaît ne sera pas bon pour nous. Voilà. Donc, il faut faire des sacrifices et puis avoir un objectif. Et bon, avec la prière, ça peut aller.
Voilà, mes auditeurs, on était avec le jeune Touré Dauda, un homme d'affaires assez accompli, hein, jeune, mais qui sait où il va. C'était à Daloa, dans le cadre d'Itinéraire pour vous. C'est terminé. C'est sur Radio de la Paix. Merci à vous.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.